France Inter, le 6-9 du week-end.
Alain Baraton, vous êtes venu avec votre main verte.
Je peux vous dire quelque chose,
bonjour, Eric. Bien sûr, Patricia.
En fait, il n'est pas du tout jardinier, Alain Baraton.
Il fait quoi dans la vie?
Je ne sais pas.
On se demande.
Il n'est pas jardinier.
Quand vous savez que je suis venu ce matin, les bras chargés de tomates, pour tenter de séduire Patricia Martin, quelle absence de reconnaissance.
Alain Baraton, ce matin, on va parler d'un fruit, car c'est bien un fruit, hein, le concombre.
Eh oui, eh oui.
Peut-on dire du concombre qu'il est l'un des fruits d'ailleurs les plus consommés?
Sans aucun doute, et avant de donner quelques éléments chiffrés, il est bon de rappeler qu'en botanique, un fruit est obtenu par une flore, donc oui, comme la tomate, le concombre est bien un fruit, et j'ai également prévu pour vous, Patricia, dans le sac, quelques concombres. Il est produit chaque année dans le monde, près de 58 millions de tonnes de cornichons et concombres, les trois quarts étant cultivés en Chine.
Précision, concombre, cornichon, c'est bien la même famille.
Oui, tout à fait. Pour faire simple, le cornichon est un concombre cueilli quand il est petit, mais il est vrai aussi que certaines variétés sont plus adaptées pour produire ce que l'on désire, à savoir concombre ou cornichon. Pour être complet avec les chiffres, la France produit chaque année sur son sol 130 000 tonnes de concombres et 25 000 de cornichons.
Les curcubitacées.
Exactement. De quelle région du monde le concombre est-il originaire?
Selon toute vraisemblance, le Cucumis sativus, c'est son nom botanique, serait né en Inde, mais il est difficile de l'affirmer car personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait à l'état sauvage. Ce que nous savons, c'est peu, mais c'est déjà beaucoup. Les Afghans le cultivaient déjà il y a 2000 ans. L'avantage du concombre est qu'il étanche la soif et accompagne donc, c'est logique, les populations lors de leurs déplacements. On le retrouve ainsi en Chine, puis au Moyen-Orient. Les Égyptiens, je parle de bien entendu...
Égypte antique.
Oui, les appréciaient tant qu'ils en plaçaient dans les tombeaux pour accompagner le défunt pour le grand voyage.
Et depuis quand est-ce qu'on cultive le concombre dans les jardins français?
Depuis presque toujours, même s'il était jusqu'à la Renaissance davantage produit pour ses supposées vertus médicinales. Au XVIIIe siècle, tout change. Au XVIIe siècle, pardonnez-moi, tout change quand il est récolté à Versailles. Le génial créateur du potager du roi, celui que je ne cesse de prendre pour héros, Jean-Baptiste de la Quintigny, parvient même à en produire au début du mois d'avril. C'est une prouesse. Si Louis XIV mange du concombre, il reste néanmoins peu apprécié dans les campagnes à cause de son goût amer. Un petit siècle plus tard, toujours à Versailles, le concombre fait des miracles comme produit de beauté.
Produit de beauté, le concombre. Ne me dites pas que Marie-Antoinette s'en mettait sur le visage pour aller dormir.
Non, le faites-vous, Patricia Martin. Est-ce que vous vous mettez du concombre sur le visage?
Pourquoi vous posez cette question à une femme et pas à moi?
Non, parce que justement, Patricia a quelques petites rougeurs. Il paraît que c'est très bon pour lutter contre les rougeurs.
N'importe quoi.
Alors que vous avez un visage absolument
parfait.
Vous êtes un goujat.
Alors,
Marie-Antoinette utilisait effectivement le concombre, mais comme pommade, bien évidemment, pour lutter contre les irritations. Sachez à propos du fruit, donc du concombre, que sous l'Empire ou pendant l'Empire, les jardiniers n'ont eu de cesse d'améliorer l'espèce et le concombre est enfin consommé partout dans le pays. Aujourd'hui, il n'existe pas de potager sans concombre et c'est heureux. Pour conclure, j'ai juste une petite question, Éric Delvaux, à vous poser. Comment appelle-t-on la plante qui produit des concombres?
Le concombranier.
Patricia
Martin. Le curcubitacé.
Le concombre, tout simplement.
De toute façon, je ne vous parle plus.
Comme la tomate, on dit un pied de tomate, un pied de concombre.
Et pour le préparer, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire?
Une vinaigrette.
Pour qu'il ne soit pas trop lourd.
Non, nous mettons
du sel. Il faut le faire un petit peu de sel, vous le faites dégorger, donc vous jetez ensuite l'eau et ça le rend plus digeste. Et
il faut surtout, comme les grands chefs cuisiniers, le cueillir petit pour éviter justement qu'il ne se dégrade avec la dimension. Beaucoup de jardiniers ont tendance à vouloir produire de gros légumes, c'est une erreur. Je vous assure que les petits concombres cueillis pile poil à maturité, ce sont des merveilles.
Alain Baraton, maintenant vos conseils, vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Rennes vous demande s'il est possible d'avoir dans son jardin en France un pied de réglisse.
Eh oui, la réglisse, vous vous rappelez quand on était enfant, qu'on allait à l'école, on mâchouillait ça,
un bâton de bois dans les dents.
Voilà, ce sont les racines que l'on consomme. Alors il faut savoir que la plante est originaire du sud de l'Europe et de l'Asie, et qu'elle est frileuse. Mais elle est frileuse quand elle est petite. Adulte, moins 10, moins 15 ne l'effraie absolument pas. Le problème, c'est que quand elle est petite, il y a les premiers hivers. Pourquoi ne pas planter en pot un pied de réglisse dans le jardin? Vous le mettez en pot. Lorsque l'automne arrive, vous mettez votre pied dans une véranda, une pièce lumineuse, mais bien entendu non chauffée, et vous la ressortez au printemps. Et quand elle a pris un certain développement, alors vous la plantez durablement et elle pourra résister au froid même important. La plante n'a pas un intérêt extraordinaire, elle atteint 1 mètre, 1,50 mètre de hauteur, mais il est vrai que ça peut être amusant d'avoir de temps en temps...
Un pied de réglisse à la maison.
C'est amusant.
Romy a un saule pleureur, il est devenu jaune, il perd ses feuilles. Que se passe-t-il, vous demande Romy?
Alors, Actuellement, quantité de plantes sont en train de perdre leurs feuilles prématurément, quantité de saules sont en train de jaunir. C'est ce que l'on appelle un stress hydrique, à savoir, il y a eu un effet de canicule, un effet de sécheresse. Alors, je vais être très simple pour le saule pleureur, il va mourir.
Bon, eh bien, c'est dit clairement.
Alors jamais. Que vous perdez vos cheveux, mais vous n'allez pas mourir.
Non, je ne...
Vous devenez jaune aussi, mais voilà. Ça, c'est le foie, c'est l'alcool, c'est autre chose. Patricia Martin, non, c'est pas vous, Patricia Martin. Patricia,
pardonnez-moi, ça fait quand même du bien de rire. Quand on regarde, quand on écoute l'actualité, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, quand on voit ces drames en Amazonie, par exemple, eh bien, le fait de pouvoir rire, parce que nous parlons jardin, ça prouve à quel point le jardin a de l'importance.
Il faut cultiver notre jardin et dépêchons-nous de rire des choses avant d'avoir à en pleurer. Patricia, donc, elle a de gros champignons, Patricia, qui poussent sur sa pelouse. Comment faire pour qu'ils disparaissent et ne reviennent pas?
Rien, il n'y a aucune technique. Cessons de mettre des produits. Déjà, il peut y avoir quelques champignons comestibles avant de les jeter. Regardez s'il ne s'agit pas du bon vieux bolet. Imaginez des cèpes qui pousseraient devant chez vous. Ce serait extraordinaire. Il y a également les petits rosés des prés qui peuvent avoir un intérêt. Donc, quand il y a de gros champignons, il suffit simplement de donner un coup de pied dedans. On les élimine. Les produits, les fongicides sur une pelouse ne font que des dégâts.
Comment éliminer la mousse qui envahit ma pelouse demande dans la même
c'est la même chose. D'idée, c'est la même chose. Ouais. Pourquoi y a-t-il de la mousse? Alors les gens vous achètent du sulfate de fer. Sulfate de fer tue la mousse, acidifie la terre et encourage son retour. Ça n'a aucun intérêt. Ne mettez plus de produits.
Allez, pour le week-end, un dernier conseil.
Le Prince Jardinier, Louis Albert de Broglie, vous recevra aujourd'hui et demain. C'est la 21e édition du Festival de la Tomate et des Saveurs au château de la Bourdaisière. C'est à Montlouis-sur-Loire et c'est dans l'Indre-et-Loire, département numéro 37.
Merci Alain Baraton. Et à demain.
À demain.